fin du chapitre. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez en horreur le mal, tenez ferme au bien. Quant à l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Quant à l'honneur, soyez les premiers à le rendre les uns aux autres. Quant à l'activité, pas paresseux. Fervent en esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance. Soyez patients dans la tribulation, persévérants dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Appliquez-vous à l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez une même pensée les uns envers les autres. Au lieu de penser à ce qui est élevé, associez-vous à ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne mal pour mal. Proposez-vous ce qui est honnête devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. » Au contraire, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu entasseras des charbons de feu sur sa tête. Ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien.
C'est donc, dès le début du paragraphe, l'invitation à vivre quelque chose de franc, d'honnête, dans une véritable intégrité. On a expliqué ce matin qu'avant le chapitre 12, on avait le déploiement de toutes les compassions de Dieu dans lesquelles s'exprime cet amour qui vient jusqu'à nous, nous chercher où nous sommes, qu'il s'agisse d'éléments du peuple d'autrefois ou d'hommes des nations, comme nous ici, pour faire entrer son amour dans nos cœurs, et l'Esprit Saint verse cet amour dans nos cœurs, on le lit dans l'Épître aux Romains. Alors, cet amour, nous devons aussi le traduire. Dieu se manifeste dans son amour, c'est sa nature même. Dieu est amour, on le trouve deux fois dans le chapitre 4 de la première Épître de Jean. Et nous sommes invités, nous, à manifester ce caractère. Si on ne pense pas à Dieu déployant son amour, manifestant, exerçant cet amour, eh bien on va le faire avec un mélange de sentiments humains. Ici, moi je lis, que l'amour soit sans hypocrisie. Et par conséquent, quand, parce que nous sommes ce que nous sommes, hein, et il y a des gens qui sont très sympathiques et d'autres qui le sont moins. Et si quelque part on blesse avec une certaine injustice, eh bien, ça limite un petit peu votre liberté. Ça me travaille toujours, ça, et je me dis attention, hein. Tu risques de manifester un amour avec certaines dissimulations. Que l'amour soit sans hypocrisie. Il faut avoir cette liberté de Dieu pour exprimer l'amour. Ça passe par le désir intense du bien de l'autre, le souci d'une réparation qui, justement, réintroduise une entière liberté. Il faut travailler pour que l'amour soit sans hypocrisie.
Peut-être que l'exhortation centrale de ce paragraphe, c'est au verset 11, quand il est dit « servant le Seigneur ». L'attitude globale de tout ce qu'il y a, il me semble, dans ce paragraphe, c'est « servant le Seigneur », vous servez le Seigneur. Et c'est la motivation qui va nous, c'est la vraie motivation qui va nous amener à vivre ce qui est écrit autour. Alors, Ayez en horreur le mal, tenez ferme au bien. Et vous voyez dans le texte, les deux choses sont liées. Il y a un équilibre. Être occupé du mal sans arrêt, c'est malsain. Et de notre côté, comment avoir ne pas accepter ce qui est mal, comment être sain, en santé, de cette manière-là, c'est en tenant ferme au bien. Il y a cet équilibre. On peut avoir des choses qui sont mauvaises, ne pas s'approcher. Mais pour ne pas s'approcher, tenez ferme au bien. Et l'équilibre doit être vraiment vécu dans nos vies de cette manière-là.
Quand on entend le Seigneur Jésus parler prophétiquement dans le chapitre 8 du livre des Proverbes, on lit au verset 13, « La crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. » Voilà, « Je hais l'orgueil et la hauteur et la voix d'iniquité. » Donc ici, on voit bien le comportement du Seigneur Jésus lui-même, homme parfait, séparé de tout ce qui est étranger à la pensée de Dieu, et le mal est là, mis de côté avec une sainte horreur. Eh bien voilà, on a précisé ce matin que le Seigneur était là comme l'exemple parfait, que vivre avec lui dans son intimité, dans sa communion, c'était quelque chose d'extrêmement savoureux. Je le regarde, je le vois, dans sa séparation absolue du mal. Et je lis ce passage-là, « Ayez en horreur le mal ». Et par contre, ce que vient de dire Jean-Luc, excusez-moi, c'est « Tenez ferme au bien », et c'est indissociable, parce que avoir en horreur le mal peut conduire justement, comme il l'a dit, à en être occupé, à l'appréhender tellement qu'on le guette continuellement et ça nous occupe. Non, « Tenez ferme au bien ». Parce que voilà, le mal se présente avec ce que Dieu nous a appris, ou ce qu'on a pu vivre par expérience. Hop, on voit que c'est le mal tout de suite, on se retire, mais ce qui nous occupe, c'est le bien. Et ça, on le trouve beaucoup dans la parole de Dieu, servie dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Soyons occupés du bien, vivons dans les choses qui font du bien. Si le mal se présente, il faut s'en occuper, mais c'est pas le mal notre préoccupation. Essentiel, la première chose, c'est le bien. Voilà pourquoi les deux sont liés absolument.
Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, verset 8, « Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation, s'il y a quelque vertu digne d'éloge, que cela occupe vos pensées, ce que vous avez appris, reçu, entendu, vu en moi, faites-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Ce qui occupe, doit occuper nos pensées, c'est ce qui est bon. Si le mal se présente, ayez en horreur, n'approchez pas. Mais ne pas être occupé du mal, être occupé de ce qui est bon. Parce que si je passe ma vie à être occupé du mal, c'est quelque chose qui, à force, dans un sens, va souiller. Si mon état d'esprit, c'est se tourner vers ce qui est, essayer de dénoncer ce qui est mal, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Par contre, si je suis occupé du bien, le mal, un peu comme... Vous voyez, si on est occupé du bien, quelque chose de lumineux, en contraste, le mal va paraître. Mais ce qui va être l'instrument de mesure, c'est le bien qui est l'instrument de mesure. Et c'est ça qui est sain. Sinon, c'est quelque chose qui est malsain dans la manière de vivre.
Je cite un passage de la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20-21. « Mais m'éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. » On est face à tout un environnement dans nos vies personnelles et dans nos vies collectives, eh bien, il faut éprouver, apprécier les choses à la lumière de ce que nous connaissons des pensées de Dieu. Et, je lis bien, vous aussi, retenez ce qui est bon.
On se rend compte que, à partir de ce verset 9, comme le reste, c'est encore une fois le résultat de la transformation que Dieu opère dans ma vie, lorsque je vis en communion avec lui, qui va m'amener à pouvoir réaliser ses exhortations. La question du mal, c'est quelque chose qui... Il faut qu'on fasse bien attention, d'ailleurs il y a des exhortations à ce sujet, c'est qu'on est environné d'un tel mal qui n'est pas appelé mal, que franchement on a la peine à savoir ce qui est vraiment le mal. On peut bien avoir en horreur quelque chose de mal, mais il faut savoir que c'est mal. Et c'est vrai que, bon, on dit que la parole de Dieu nous donne bien des clés pour découvrir ce qui est mal. Mais la Bible, c'est pas un code avec des articles qui disent ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal. Et au fur et à mesure de l'évolution de la vie, des circonstances, de la société où nous vivons, on a besoin, en plus de la parole de Dieu, d'avoir cette vie de communion, c'est-à-dire d'intimité. Et d'intimité avec Dieu, pour discerner ce mal. Et je voudrais dire quelque chose, c'est que quelque chose que vous pouvez appeler mal aujourd'hui, si vous y touchez un petit peu, ça s'appellera encore mal pendant quelque temps, mais après ça deviendra quelque chose qui est habituel et qui n'est pas, on vous dirait pas c'est bien, mais vous direz c'est pas si mal que ça. Alors là ça veut dire qu'on est déjà loin de la pensée de Dieu quand il dit avoir horreur du mal et tenez ferme au bien, ça veut dire qu'il y a vraiment une frontière. Et je crois que c'est Paul qui parle à Timothée en disant qu'il peut y avoir une conscience cautérisée, c'est-à-dire qu'il comprend plus, qu'il n'est plus à même de discerner. Et je peux vous dire que si vous touchez à quelque chose de mal, la première fois, ça va vraiment vous reprendre au fond de vous-même. Une deuxième fois, encore un petit peu. Mais le risque, c'est qu'on s'habitue et qu'on n'ait plus la notion du mal. Et à ce moment-là, toute notre vie est... Et on peut dire pas perdu parce que la bonté de Dieu nous prend où nous sommes pour nous ramener, mais on peut perdre bien des mois, des années si on ne sait plus trop où on en est.
Il y a à propos du mal et du bien, je crois que c'est Félix Neff qui disait ceci: la conscience est comme un chien de garde, à force de voir passer les mêmes gens, il n'aboie plus. Donc on peut s'habituer au mal. Et je crois que c'est peut-être une chose dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On peut s'habituer à voir, soit dans les journaux, soit dans les médias, quels qu'ils soient, on peut s'habituer à des choses qui sont tordues et petit à petit ça transforme notre manière de voir. J'aimerais lire un verset dans Amos au chapitre 5, la page 634 de l'Ancien Testament. Amos, chapitre 5, verset 14. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Ainsi dit l'Éternel, le Dieu des armées, sera avec vous comme vous le dites. Haïssez le mal, aimez le bien, établissez dans la porte le juste jugement. Mais haïssez le mal, aimez le bien. Et nous, il faut qu'on fasse attention parce que dans notre monde, dans la vie, petit à petit, les choses se banalisent. D'une certaine manière, par exemple, dans le travail que j'ai, on soigne des familles depuis, enfin, ça fait maintenant plus de 40 ans, et il y a une vingtaine d'années, peut-être, quand on voyait un couple non marié. C'était un peu quelque chose de rare. Et puis on regardait la carte de sécurité sociale il y a 30 ans. La carte de sécurité sociale, on pouvait voir d'un premier coup d'œil dans une carte de famille que les gens étaient mariés. C'était Madame Dupont épouse machin. Puis à un moment donné, comme il y a eu des gens qui n'étaient pas mariés, on a enlevé épouse machin. De telle sorte que toi, dentiste de base, quand tu remplis la fiche de sécu, tu sais plus quel est celui qui est marié, c'est celui qui est l'époux. Et puis, petit à petit, les choses ont évolué, involué plutôt, et on a tout à fait l'impression que les couples, selon la pensée de Dieu, les gens qui ont une vie linéaire, si on peut dire, deviennent minoritaires par rapport à la majorité. Il y a ceux qui vivent, alors vous avez des gens qui ont 4 ou 5 enfants, c'est monsieur et mademoiselle, et puis il y a ceux qui se sont, les couples dits recomposés, ainsi de suite, mais le mal, la chose se dilue, et on arrive, moi ce qui était pour moi, il y a 15 ans, difficile à gérer, devient une habitude aujourd'hui. Et par rapport au bien ou au mal, l'atmosphère dans laquelle on vit peut nous transformer dans notre manière de concevoir les choses. Et il me semble qu'il faut vraiment qu'on fasse attention, le critère, sans juger les gens, bien sûr, mais le critère de notre conception du bien et du mal doit être celui de Dieu, celui de la parole de Dieu, avec le sentiment de la grâce de Dieu pour les pécheurs. Vous avez, si des gens vivent sans être mariés, ce n'est pas acceptable, il me semble, par rapport à Dieu, mais par rapport à ce que Dieu a voulu. Mais de notre côté, je n'ai pas à juger cela. Par contre, des gens peuvent être mariés et vivre mal. Ce que Dieu juge, c'est le cœur. Et ça n'empêche que petit à petit, dans notre société, les critères de Dieu deviennent de plus en plus ténus. On les voit plus. Et nous pouvons, sans nous en rendre compte, devenir de plus en plus influencés par l'atmosphère dans laquelle on vit, de telle sorte que le critère que nous allons suivre ne sera pas celui de la parole de Dieu, mais celui du monde dans lequel on vit. Alors, c'est « Ayez en horreur le mal et tenez ferme au bien ». Ayez en horreur le mal et tenez ferme au bien. Ce qui ne veut pas dire juger les autres, mais pour vous-même, ayez en horreur le mal et tenez ferme au bien.
On se rend bien compte que les critères sont dans la parole de Dieu. Moi, je pense que Dieu a raison. La parole, c'est quelque chose de vrai. Donc, Jean-Luc a dit ne pas juger. Oui, c'est très important, parce que les personnes sont responsables pour elles-mêmes, et puis je rencontre beaucoup de personnes qui sont dans des liens que la parole de Dieu ne sanctionne pas, comme étant selon la pensée de Dieu, mais qui ne savent pas. Puis il y en a d'autres qui peuvent être dans des liens dans lesquels ils sont entrés étant inconvertis, qui ont vécu des choses absolument impossibles à tenir, et puis travailler, qui ont rencontré le Seigneur, qui se trouvent maintenant dans une situation différente et qui mettent les choses en ordre. Donc il faut respecter le cheminement et l'expérience de chacun, essayer de mesurer le degré de responsabilité et aider les personnes. Le souci, c'est pas de condamner. On voit le Seigneur face à des situations difficiles devant des incrédules. Et moi, je lis les évangiles, je vois le Seigneur opérer devant ses incrédules ou ses opposants même, et je savoure son comportement. Quand il a des choses directes à dire à des gens responsables, il les dit franchement. Quand il y a des gens qui ne sont pas en mesure de comprendre, il leur parle d'une autre manière. Bien voilà, c'est l'exemple, le Seigneur. Mais il n'en reste pas moins que la parole de Dieu me donne toutes les informations pour que je sache quelle est la vraie norme et que je vive dans cette norme-là, parce que c'est la sphère du bonheur, c'est la vraie sphère de l'autorité morale, et j'aurai l'autorité pour aider les personnes qui m'entourent. Ça, c'est la recherche du bien. Si je m'impose quelque chose parce que je l'ai trouvé dans la parole de Dieu, c'est dans la perspective de la recherche du bien pour le profit des personnes au milieu desquelles je vis. Mon propre profit, ma liberté, ma communion libre avec le Seigneur, pour pouvoir apprendre de lui et lui dire à chaque instant, Seigneur, tu me vois, je suis bien avec toi, et en même temps, pour pouvoir servir les autres autour de moi.
Donc, la première idée de ce verset 9, c'est « Tenez ferme au bien, ayant horreur le mal. » Le mal, c'est d'aimer avec hypocrisie. Ça veut dire aussi qu'il faut couper un certain nombre de choses, peut-être, et de renoncer. Quand Pierre parle un peu de ce sujet, il dit qu'il y a des choses à rejeter, dont l'hypocrisie, hein, c'est l'envie, etc. Mais le bien, c'est quoi? Désirer ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le pur lait de la parole. Et puis, pourquoi? Pour goûter que le Seigneur est bon, c'est de s'accrocher au Seigneur. Donc, on ne peut pas lâcher quelque chose sans accrocher autre chose, le plus fort. Et le plus fort, c'est notre lien avec le Seigneur. Cela mène aussi de l'affection fraternelle les uns pour les autres. Et Pierre aussi met en garde contre cette affection fraternelle qui risque d'être avec l'hypocrisie. Mais elle sera sans hypocrisie. Pourquoi? Parce que vous êtes régénérés. Hein? Parce que vous avez un cœur pur. Là, la pureté du cœur. Et là, on voit, c'est un travail de tous les jours. De pouvoir faire de l'ordre donc dans nos propres vies. Et cela amène aussi le respect mutuel, donner l'honneur. Hein, on donne l'honneur à quelqu'un qui est plus grand. Et ça aussi, c'est tout à fait l'évangile, hein, de reconnaître mon frère supérieur à moi-même. Le Seigneur s'est mis plus bas pour... Voilà, et c'est vraiment non seulement imiter Christ, mais laisser Christ agir en moi. Christ transformer mes sentiments. Et c'est ainsi qu'on pourra rendre l'honneur. Et on voit que tout ça demande de l'énergie. C'est important, l'énergie. Alors, quelquefois, on est un petit peu découragé. Mais voilà, il y a toujours cette pensée de ne pas être paresseux. C'est quelque chose qui arrive vraiment... ça nous colle à la peau. Bon, on est plus ou moins courageux, c'est clair, mais sur certains points, eh bien, on se laisse vite aller. Alors voilà des exhortations qui se suivent et servir, comme disait Jean-Luc, je crois, tout à l'heure, servir le Seigneur qui est le pivot, finalement, de tout ce paragraphe. En servant le Seigneur, on sert ses frères. En aimant le Seigneur, on aime ses frères. Et les choses s'équilibrent de la bonne manière.
Dans ce passage, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement dynamique. Il est question, au fond, de nos relations, de notre vie ensemble, dans un sens, pas de nos relations vraiment, mais il me semble qu'il y a une espèce de dynamique entre nous, et avec cette affection, plein d'affection l'un pour l'autre, les uns pour les autres, de telle sorte que le but, c'est de donner l'honneur à l'autre, non pas de le chercher pour soi, et puis de se servir, de servir le Seigneur ensemble, et dans une sorte d'harmonie à la gloire de Dieu. Mais ceci, c'est au fond le résultat de l'œuvre de Dieu en nous. Et on ne peut pas imiter cela si nous n'avons pas laissé Dieu agir dans nos cœurs et dans nos consciences. Il me semble souvent, quand il est question de cette vie dans le corps de Christ, c'est un peu cela ici, c'est pas tout à fait, enfin on le trouve dans l'autre passage, le mot clé de tout, c'est l'harmonie. Chacun à sa place, chacun pour l'autre, non pas chacun pour soi. Et là, ça donne un caractère qu'on trouve au verset 12, il y a la joie, la patience, la persévérance. Joie, parce qu'on a une espérance certaine, patience, parce qu'on a un secours par rapport au Seigneur dans les difficultés, et puis persévérant dans la prière. Dans notre vie personnelle, savoir passer du temps dans la présence de Dieu, savoir passer du temps dans la prière. Je me souviens, peut-être beaucoup d'entre nous ont connu Oncle Georges Calam. Oncle Georges Calam est mort très âgé, et je me souviens la dernière fois qu'il était chez nous à Bordeaux, à la maison, il était dans la chambre d'amis, là, si vous venez chez nous, c'est là où on vous mettra. Du moins, si vous n'êtes pas de Bordeaux, les Bordelais, ils logent chez eux. La porte était un peu entrouverte, il était assis face à la fenêtre qui donne sur le jardin. Et à ce moment-là, il y a Caroline qui passe dans le couloir, une fois, deux fois, elle était petite gamine. Et puis elle va vers Geneviève et lui dit, dis donc, je pense qu'oncle Georges, il va pas. Il est pas bien, il est assis sur une chaise, là, face au jardin, et puis il parle. Puis ça faisait longtemps que ça durait. Alors Geneviève va voir, et puis, elle dit, oncle Georges, ça va? Ah oui, non, ça va bien, oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais tu vois, maintenant, je suis âgé, je peux plus faire grand chose. Mais je prie. Et ce qu'il faisait, il pouvait plus aller faire des visites, il pouvait plus, il était trop âgé, trop fatigué. Il dit, je peux plus faire grand chose. Et je prie. Et alors il priait l'un pour l'autre. Il passait son après-midi face au jardin, en train de prier, persévérant dans la prière. Et ça, combien nous avons besoin de persévérer dans la prière. Mes frères et sœurs plus âgés, qui peut-être vous sentez inutiles, et peut-être que vous avez vos rhumatismes qui vous font mal, et peut-être que vous avez bien des choses qui vous bloquent, ouvrez vos cœurs, priez. Je me souviens que quand on avait vu, enfin, Geneviève m'a raconté ça à propos d'oncle Georges, je me suis dit, quand il est parti, on s'est dit, voilà, il y a une voix qui s'est tue. Il y avait quelqu'un qui, c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup touché, il persévérait dans la prière. Je ne pouvais plus rien faire d'autre. Enfin non, quand vous réfléchissez à ça, il pouvait plus rien faire d'autre, il pouvait plus faire de visites, il pouvait plus, quand il venait chez nous, faire le jardin. Mais il pouvait prier. Et qu'est-ce que c'était certainement le plus utile? C'est le bras de Dieu qui est mis en œuvre. Que le Seigneur vous donne, mes frères et sœurs, qui peut-être vous sentez plus inutile parce que les murs de votre chambre se rapprochent, parce que c'est plus difficile, parce qu'on est plus difficile à marcher, parce qu'on n'entend plus bien, parce que il y a quelqu'un qui vous entend et vous pouvez être utile pour l'ensemble de tous vos frères et sœurs en persévérant dans la prière. Et là, c'est le bras de Dieu qui est mis en œuvre.
La prière a deux avantages. Le premier, c'est qu'elle entretient la communion avec Dieu. On prie, on échange. On échange avec le Seigneur, hein, dans une activité dans la journée. Bon, vous n'allez pas, si vous êtes devant des personnes avec lesquelles vous travaillez ou pour lesquelles vous travaillez, vous mettre d'un seul coup à prier tout fort, ça paraîtra bizarre et puis on dira, bon, bah, il y a quelque chose qui tourne, elle a quelque chose qui ne tourne pas rond, mais rien ne vous empêche de prier dans votre cœur. Et Dieu entend aussi ces voix-là parce qu'il connaît toutes les pensées de nos cœurs. Donc, d'abord, la prière, c'est quelque chose qui entretient et qui cultive la communion avec Dieu. Deuxième axe, très important, la prière fait mouvoir, Jean-Luc vient le dire, le bras de Dieu. Et nous avons énormément d'exhortations dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament à prier pour entretenir la communion et à prier pour ce qui se passe autour de nous, non seulement au sein du peuple de Dieu, mais dans le monde. Par exemple, lorsque nous sommes invités à prier justement pour les autorités, au début d'un Timothée 2 par exemple, hein, devant lesquelles nous sommes, et il y a une responsabilité de prier. Bien, je voudrais dire une petite chose encore, faire une petite remarque sur les versets 9 et 10. Hein. Vous remarquez bien qu'au verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie, il n'y a pas d'indication particulière. Moi, je lis dans la parole de Dieu que la manifestation de l'amour de Dieu, c'est en direction de tous les hommes. Dieu a tant aimé le monde. Je vois le Seigneur Jésus qui regarde un jeune homme qui n'a pas réalisé un certain nombre de choses, qui cependant a une certaine droiture malgré son raisonnement, il le regarde, il l'aime. Donc dans ce verset 9, je vois l'amour d'une manière universelle qui embrasse tout le champ des personnes qui nous entourent. Et puis, dans le verset 10, l'amour fraternel, frère, sœur, dans la foi. Donc, il y a ici un domaine très large, et puis dans l'amour fraternel, plein d'affection les uns pour les autres, et comme Jean-Luc l'a souligné, les premières exhortations, c'est en direction des autres. Et ça, c'est important de le vivre. On a des responsabilités envers ceux qui nous entourent. C'est bon d'y entrer, c'est savoureux d'y entrer. Et quand il y a quelque chose qui bloque quelque part, alors il faut se mettre à genoux devant le Seigneur, et puis il faut lui en parler, de manière qu'il y ait cette vraie liberté et qu'on puisse exercer tout ce qu'on a à exercer en direction des autres.
Alors il y a des choses peut-être qui nous paraissent plus faciles que d'autres. En l'occurrence, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. C'est quelque chose qui est plus facile que d'être patient dans la tribulation, ou encore de bénir ceux qui nous persécutent. Et pourtant, la parole est claire, il nous faut être patient dans la tribulation, et il nous faut bénir ceux qui nous persécutent. Alors, il y a des exemples dans la parole, je pense en l'occurrence à Joseph. Il a été dans la tribulation, il a été lui aussi persécuté, il ne s'est pas rebellé, il n'a pas eu cette attitude de rancœur, au contraire. Et dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, il nous est dit... Vous domestiques, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, au chapitre 2, au verset 18, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont fâcheux, car c'est une chose digne de louange si quelqu'un, par conscience envers Dieu, supporte ses afflictions, souffrant injustement. Car quelle gloire y a-t-il si souffleté pour avoir mal fait, vous l'endurez? Mais si en faisant le bien, vous souffrez et que vous l'enduriez, cela est digne de louange devant Dieu. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Car aussi Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Voilà. Le modèle, c'est le Seigneur. C'est lui qui, lorsqu'on l'outrageait, ne rendait pas d'outrage. C'est lui qui... n'a pas répondu à Pilate, qui s'est laissé conduire. C'est notre modèle. Nous avons à être patients dans la tribulation et à bénir ceux qui nous persécutent.
Quelqu'un qui a été très patient, sincère et droit devant Dieu, que Dieu avait apprécié d'ailleurs à sa juste valeur. Mais voyez, ici on a deux appréciations du même homme. L'appréciation de Dieu et l'appréciation de Satan. Voilà, je n'ai pas prononcé le nom pour que beaucoup de ceux qui connaissent soient heureux de le connaître déjà. Bon, pour ceux qui ne l'auraient pas trouvé, il s'agit de Job. Dès le début du livre de Job, on voit l'appréciation et Dieu dit même à Satan, qui se présente pour essayer de faire quelque chose et de porter atteinte à l'appréciation de Dieu, « As-tu considéré, mon serviteur Job, qu'il n'y a pas d'homme juste et droit, etc. » Se retirant du mal, précisément, voilà ce qu'on trouve. Et puis, même sa femme lui dit, « Mais enfin, tu vois ce qui se passe, alors maudit Dieu et meurt !» Ah, dis donc, nous avons reçu les choses que nous avons appréciées de Dieu, ces moments difficiles, nous devons les recevoir aussi de lui. Il dit même, et nous ne recevrions pas le mal, mais le contexte nous dit très clairement que toutes ces atteintes, c'est Satan qui les fait contre Job pour essayer de le déstabiliser, mais Dieu dit à Satan, attends, jusque-là je t'autorise, mais pas au-delà. Donc il est entouré effectivement d'une haie de protection. Et puis ensuite on assiste à une discussion, c'est intéressant à lire ce livre de Job, et il y a des raisonnements de Job lui-même, mais en sincérité, hein, il va jusqu'à dire, mais qu'il se présente, qu'il vienne, alors on va parler ensemble, et je lui expliquerai ma justice, ma droiture, mais Dieu connaît la justice et la droiture de Job. Et ses ennemis, malgré que les conversations nous apportent un enseignement, sont, selon l'appréciation de Dieu, des amis fâcheux. On trouve ça dans le dernier chapitre. Mais Job reste intègre devant Dieu, dans un respect de Dieu, et finalement, à la fin, il est béni plus qu'au commencement, il perd tout. Tous ses avantages matériels, ses enfants, une atteinte qui pourrait le déstabiliser complètement, Satan est, et c'est tout. Et à la fin, c'est l'homme qui a appris à connaître Dieu. J'ai donc parlé, et sans comprendre, de choses trop merveilleuses pour moi que je ne connaissais pas. Et il dit, en quelque sorte, mon oreille avait entendu parler de toi, sont les paroles du début du chapitre 42, hein. Mais maintenant, mon œil t'a vu. J'ai horreur de moi, je me repens dans la poussière et dans la cendre, mais il a rencontré Dieu, il a trouvé Dieu, il a compris Dieu. Il est béni plus qu'au commencement, avec une richesse plus grande. Et ses filles reçoivent des noms qui sont les noms des parfums du sanctuaire. Et Jacques nous dit, vous avez oui parlé de la patience de Job, et vous avez vu la fin du Seigneur, savoir que le Seigneur est plein de compassion et miséricordieux. Un homme éprouvé, Dieu a vu un chemin pour lui apprendre quelque chose de plus, il traverse son épreuve, reste intègre devant Dieu, il apprend, à la fin, il a une communion plus riche avec Dieu, des choses plus belles. Patient dans la tribulation d'ailleurs, dans l'épître aux Romains, on a une invitation à traverser la tribulation avec Dieu, dans le chapitre 5, au verset 3, « Nous nous glorifions, dit Paul, dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience l'expérience, l'expérience l'espérance, et on trouve l'espérance ici, justement, dans la portion qui est devant nous. » Donc, tout un chemin de Dieu. Vous voyez, on vit les choses sous le regard de Dieu, avec le Seigneur, et toute situation qu'on traverse est une occasion d'apprendre. Hein? Vous souffrez. Bon, il y a des choses difficiles, ça vous mine, vous allez perdre un certain nombre de kilos à cause des douleurs, et moi j'ai dit librement au Seigneur, tu peux tout arrêter tout de suite si tu veux. Mais s'il y a quelque chose de bon à apprendre, j'ai envie de l'apprendre. Alors, les choses peuvent durer un certain temps, mais on apprend avec le Seigneur. Et je suis sûr qu'à la fin, ça sera extrêmement savoureux. Et Job a connu des choses comme ceci. Alors, patient dans la tribulation, pensant que Dieu est en train de faire quelque chose pour nous permettre d'obtenir, de comprendre, de vivre avec lui ce que nous ne pourrions pas vivre sans traverser ces circonstances. Alors, la tribulation est là, comme l'a dit Jean-Luc ce matin, « Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ?» On vit avec le Seigneur, « Qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je dois comprendre ? Tu es là avec moi, alors on est ensemble. » Voilà, et les choses se poursuivent, on est patient, on attend le but de Dieu est magnifique, ça vaut vraiment la peine d'attendre et de ne pas interrompre les choses en donnant à Dieu, reconnaissant à Dieu sa souveraineté et en laissant le maître d'œuvre dans ce que nous traversons.
Il y a une autre chose qui nous est demandée, c'est d'être joyeux, d'être plein de joie. Réjouissez-vous en espérance, verset 12. Et bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un tempérament plus joyeux que d'autres, donc il y en a qui ont plus de difficultés avec ça que d'autres. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous est demandé à tous, d'être joyeux. Et c'est pas toujours facile de choisir ce chemin-là de la joie, parce que il y a souvent des voleurs de joie à tout bout de champ dans nos vies, des frustrations, des gens qui nous énervent, des gens qui nous renvoie une image qui n'est pas celle qu'on voudrait aussi, des difficultés dans le travail ou autre, de multiples raisons que l'on pourrait avoir de ruminer des choses négatives et de cultiver un peu cet état d'esprit de tristesse. Et je crois que c'est un choix de vie que l'on a à faire, de vraiment choisir. Alors j'allais dire indépendamment des circonstances, on n'est pas inhumain bien sûr, hein. Le chemin que Dieu nous appelle, c'est de lui présenter toutes ses difficultés. Des fois c'est un chemin qui est pas immédiat, on est invité aussi à la tristesse, hein, verset 15, pleurer avec ceux qui pleurent. Donc là aussi, il y a quelque chose qui nous est demandé, de s'associer avec ceux qui sont dans les difficultés pour partager leur peine. Donc il y a aussi des moments où c'est utile de pleurer. Mais je crois que quand même, ce vers quoi on est appelé, c'est d'être rayonnant de joie, parce que c'est communicatif, parce que c'est un témoignage pour Dieu, parce que Dieu nous le demande. Alors voilà, qu'on puisse essayer de, quand la tristesse, en tout cas une tristesse négative nous accable, essayer de remettre ce qui va pas à Dieu. Et puis réjouissez-vous en espérance, parce que peut-être que devant nos yeux on n'a pas toujours ce plan de Dieu qui a pour nous, c'est de nous avoir pour lui enfin dans sa présence pour toujours. Et quel que soit peut-être le chemin où on est à passer, qui est des fois un peu difficile, eh bien la main de Dieu est puissante, il veut nous amener, il nous amènera, c'est sûr, toujours auprès de lui.
Et puis l'espérance, c'est aussi l'espérance de la fin du moment difficile, hein. C'est pas forcément quelque chose qui concerne un certain lointain selon l'appréciation de l'homme. Mais je lis, moi, dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Encore une fois, je vous le dirai, « Réjouissez-vous. » Bien. Je pense que d'autres ici, que moi, ont connu de vrais moments où on a partagé des pleurs avec d'autres, avec une joie intérieure réelle. Parce qu'on est là avec le Seigneur, on sympathise dans la douleur, on a une vraie sensibilité. Vous voyez, il y a une expression que j'aime bien, en 1 Thessaloniciens 4, nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Les chrétiens sincères sont des êtres souvent très sensibles. Et la joie des autres, ça les touche. Et les larmes des autres, ça les touche aussi, et ils sympathisent dans la joie comme dans la douleur. Ils pleurent aussi, ils partagent avec d'autres, pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance, parce qu'il y a une joie intérieure, ou comme on le trouve pour le peuple d'Israël dans le livre du Deutéronome, tu ne seras que joyeux. Ça vient ou ça sera absolument ça, sans la moindre réserve. Déjà, connaissant cette réalité, on peut donc se réjouir. Mais il y a des joies qui sont des joies saines, mais il y a aussi des rires derrière lesquels se cache la tristesse. On le trouve, ceci, dans le livre des Proverbes, au chapitre 14 et au verset 13, « Même dans le rire, le cœur est triste, et la fin de la joie, c'est le chagrin. » Quand les choses ne sont pas vécues avec le Seigneur, il n'y a pas cette joie intérieure qui transforme l'être progressivement, qui est liée à l'espérance et qui fait savourer par anticipation un bonheur et une joie avec le Seigneur, déjà présente par anticipation, qui va être réelle bientôt et pleine dans la gloire éternelle. Alors, il y a le rire, mais le cœur est triste. Et puis après la joie, une joie dans laquelle on s'investit, le monde par exemple s'investit, on vit des moments heureux, on oublie comme ça les choses qui font souci, et on s'investit, on rit, on partage. Et puis d'un seul coup une pensée vous traverse, oui mais, eh oui, le cœur est étreint là, parce que Dieu travaille aussi, et voudrait bien sauver les personnes qui sont comme ça. Pour le chrétien, non. Il n'y a pas ce rire avec un cœur triste, c'est une joie réelle, sans réserve. Et dans la douleur, il y a une joie intérieure, une communion avec le Seigneur, un bonheur savouré et une reconnaissance. Ça, ça fait du bien. C'est la vie chrétienne, ça. Alors, subvenons aux nécessités des saints. Je crois qu'on n'en a pas parlé. Bien. Les nécessités des saints, il y a évidemment des nécessités sur le plan matériel. Bon, un certain nombre de passages nous parlent d'une disposition de cœur qui devrait être la nôtre en permanence. Quelqu'un est dans le besoin, même un ennemi, on en a parlé ce matin. S'il a faim, je lui donne à manger. S'il a soif, je lui donne à boire. Bon. C'est pas forcément un saint, c'est un ennemi, mais malheureusement, dans le domaine de la foi, il y a des gens qui se comportent un petit peu comme des ennemis. Donc ça, vous pourrez méditer là-dessus, et puis voir votre domaine particulier. Mais les saints, je suis lié à eux. Donc ici, on a une espérance commune, on va ensemble vers la gloire éternelle, on va tout à l'heure être ensemble avec le Seigneur, lui être rendu semblable, je les aime déjà, je pense à cette fusion dans la gloire éternelle, à cet ensemble qui sera vu dans son unité parfaite, et je ne peux pas, moi, vivre d'une manière et voir l'autre à côté souffrir parce qu'il manque du nécessaire, non, je partage. Il y a des pays où on sait faire. Hein. Par exemple, on a accueilli ici en Charente une famille moldave, et on connaît même une famille arménienne, à Niort, bon, il y en a qui connaissent aussi, et dans ces pays-là, à cause de ce qu'ils ont traversé, les maisons sont ouvertes. Quelqu'un vient, il a faim, il y a toujours à manger pour lui. Bon, on devrait déjà savoir le faire sur le plan chrétien. Donc, subvenant aux nécessités sur le plan matériel, ça doit être quelque chose qui doit venir tout naturellement. Hein? Il faut quelquefois distinguer, bien entendu. Hein? Y a des personnes qui passent leur temps à demander, mais qui ont de solides réserves et qui pourraient donner alors qu'elles passent leur temps à demander. Bon, là, il faut peut-être du discernement. Bon, on subvient aux besoins des saints sur le plan matériel. Mais dites-moi, mon souci, moi, et je pense que c'est pas le mien seul, parce que c'est ce que je trouve dans la pensée de Dieu, c'est que mon frère, ma sœur, ait ce qu'il lui faut sur le plan matériel, mais soit enrichi sur le plan spirituel. Il y a aussi des nécessités sur le plan spirituel. Et il faut aussi sentir notre responsabilité de subvenir aux nécessités, c'est-à-dire des choses qui sont en quelque sorte impératives. Faut y penser, et en même temps, on va cultiver le terrain spirituel et s'enrichir personnellement, parce qu'il est clair qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, si on s'enrichit sur le plan spirituel, on pourra donner davantage. C'est aussi une façon d'aimer. On étudie la parole de Dieu pour être nourri, pour qu'il y ait abondance dans notre cœur. Et l'Évangile nous dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et quand on trouve un frère, une sœur, chez lequel, laquelle, on sent un impératif, quelque chose qui est à apporter, si on l'a reçu, on peut l'apporter. Plus on s'est enrichi avec la parole de Dieu, plus on aura d'occasion de subvenir sur ce plan-là aux nécessités. Alors, excusez-moi, mais puisque personne ne dit rien, je veux bien dire encore quelque chose. Vous appliquant à l'hospitalité. L'hospitalité, c'est une disposition à accueillir. Quand vous recevez chez vous, vous avez une atmosphère de sympathie, une atmosphère de liberté. Celui, celle, ceux qui sont reçus se sentent appréciés. Ils sont là, invités, on est heureux de les accueillir, ils se sentent bien. C'est une occasion d'échange dans les deux sens. Vous pouvez apporter quelque chose, vous pouvez recevoir quelque chose. Il y a même un verset d'une grande importance qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13 et au verset 1er, « N'oubliez pas l'hospitalité, écoutez bien, car par elle, quelques-uns, à leur insu, ont logé des anges. » L'habitude de l'hospitalité peut nous permettre en même temps de rencontrer des personnes qui vont nous faire du bien, que Dieu envoie véritablement, même des anges qui vont être là, vus comme des hommes. On trouve cela dans l'Ancien Testament, par exemple, les hommes qui viennent vers Abraham, ceux qui s'occupent de Lot, etc. Voilà, ce sont des anges qui sont là, et qui entrent dans la vie de tous les jours des hommes, mais qui sont des anges que Dieu envoie, et qui ont un service particulier. Quelques-uns, à leur insu, ont logé des anges. Donc, si maintenant, vous lisez les versets précédents, et puis, vous appliquant à l'hospitalité, on se rend compte que cette hospitalité peut englober tout le reste et être un moyen pratique pour vivre ce qui précède. C'est riche, l'hospitalité. Alors, il faut s'y disposer, hein, l'habitude de recevoir. Je me souviens des réflexions des enfants. Ils viennent, tant mieux. Ah, les enfants sont contents qu'ils viennent quelqu'un dans la maison. Ça change un petit peu des habitudes. Eux, ça les fatigue pas trop. Puis s'il y a des enfants avec eux ou des jeunes de leur classe d'âge, ça leur permet d'échanger. C'est quelque chose d'excellent, l'hospitalité. Vous appliquant à l'hospitalité, c'est bon. Dieu le dit, c'est utile quelque part, c'est profitable.
Alors, au sujet de l'hospitalité, il y a l'hospitalité prévue et l'hospitalité imprévue. C'est-à-dire que vous pouvez très bien inviter quelqu'un pour un repas, pour un moment passé ensemble, et ça c'est très chrétien, très fraternel. Mais il y a l'hospitalité aussi imprévue, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive à l'improviste. Et comment va-t-il être reçu ? Et là, je dois dire que personnellement, j'ai toujours été frappé par mes parents et par mon père particulièrement, parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de travail, qui finissait souvent ses journées très tard le soir, et quelqu'un pouvait arriver à la maison n'importe quand. Il était toujours reçu, c'est-à-dire que mon père quittait son travail et était disponible. Et je crois que dans l'hospitalité, il y a cette notion de disponibilité, c'est-à-dire être à l'écoute de l'autre, présent avec l'autre. Et c'est quelque chose que j'ai, toujours remarqué chez mes parents. Et c'est difficile à mettre en pratique.
Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que ce qui termine ce paragraphe qu'on est en train de regarder, appliquez-vous à l'hospitalité, ça fait suite au début du paragraphe qui est l'amour soit sans hypocrisie. On pourrait se faire une contrainte de l'hospitalité et donc dresser des listes et puis à faire des invitations systématiques. Mais si c'est pour répondre à des règles, il peut y avoir de l'hypocrisie et donc ça répond pas vraiment. Et puis bon, dans Hébreux 13, l'hospitalité, elle est pas seulement dans le cadre de l'amour fraternel, parce que si on reçoit à son insu des anges, c'est que fatalement c'était des gens qu'on connaissait pas. Donc c'est une hospitalité qui est large et qui n'est pas restreinte à un cercle circonscrit.
Quand on lit ces passages, du moins les exhortations, il semble que c'est un peu comme quand on regarde un billet de banque. Quand on regarde un billet de banque, donc il y a le dessin, si on peut dire, mais on regarde à travers, et par là, on laisse passer la lumière à travers le billet et on voit un filigrane. Il me semble que quand on regarde ce passage, on voit le dessin du billet de banque, et puis à travers, qui c'est qu'on voit, c'est le Seigneur. Et quelque part, dans ces exhortations, dans la manière de vivre ces exhortations, c'est aussi une manière de montrer, ou de vivre plutôt, le Seigneur, on voit le Seigneur à travers ces exhortations. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais il ne s'agit pas d'appliquer ça comme si on appliquait un code. Cela, nous le vivrons et nous le vivons, dans la mesure où nous sommes proches du Seigneur et au fond, en filigrane, dans la vie des chrétiens, dans cette manière d'être, dans l'accueil, dans la sympathie l'un pour l'autre, dans la patience, dans la joie, dans tout ce qui nous est présenté là, eh bien, on voit à travers la lumière qui vient de Dieu, on voit à travers les chrétiens quelque chose du Seigneur Jésus.
J'ai trouvé ceci en Colombie en juin-juillet, dans une région où les FARC dominaient. Ils se sont présentés d'ailleurs un jour chez un frère paysan qui a une épouse et deux filles, un mardi ou un mercredi, et puis ils leur ont dit « Bon, samedi, la maison vide, sinon vous êtes tous morts. Hein. » Et puis effectivement, ça se passait habituellement comme ça. Dans un autre lieu, ils sont venus pour recruter parce qu'il manquait de guerriers. Ils ont vu des jeunes là, ils leur ont dit « Allez hop, on a besoin de guerrieros, vous entrez, hein, vous venez avec nous. » Et eux ont répondu « Non, nous sommes chrétiens, soldats de Jésus-Christ, nous menons un autre combat, nous ne pouvons pas aller vous battre pour votre cause, nous battre pour votre cause et tuer des gens. » Bon, on les a tués tout de suite, hein, vous voyez, c'est quelque chose de radical. Bon, ceux-là, le foyer dont j'ai parlé, après un moment difficile et un handicap sérieux pour une longue période, et peut-être des problèmes nerveux pour notre frère jusqu'à la fin de la vie, bon, sont toujours là. Alors, il y a maintenant un lieu de rassemblement dans ce lieu-là qui s'appelle Bonafont. Et un enseignement qui est demandé d'ailleurs, parce que les personnes là-bas qui viennent à la foi disent, bon, bien nous croyons maintenant, mais nous voulons un enseignement. Et ils reçoivent l'enseignement à coup de 3 heures d'enseignement, ils viennent là, 50 minutes, 10 minutes, un quart d'heure de détente, 50 minutes de nouveau, voilà, ils veulent l'enseignement véritablement. On est sorti de là, hein, c'était un frère de là-bas qui donnait l'enseignement, et on lui dit, non, on ne veut pas prendre la place, on veut bien assister, hein. Et finalement, on a parlé avec ce frère qui avait connu ces moments difficiles, un long moment, et puis on est arrivé un petit peu après, mais quand on est sorti de cette période de 3 heures, on nous a dit, on vous attend. Alors, on nous attendait à 300 mètres, et à 300 mètres, nous sommes entrés dans une petite boulangerie, hein, et dans un lieu où les chrétiens n'étaient pas appréciés du tout. Eh bien, on a trouvé 2 affiches, des grands tableaux importants, hein, d'une grande taille, que chacun pouvait lire. Eh bien, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, etc. Hein. Et puis sur l'autre, en gros titre, l'amour jusqu'aux ennemis. Et la règle d'or. La règle d'or, c'était justement de servir toutes les personnes, même les ennemis, en pensant au salut et au profit éternel. Eh bien, le paragraphe qui termine commence ici, il n'est pas découpé dans l'ancienne traduction, mais il est bien découpé là, il commence au verset 14 et va jusqu'au verset 21. Il commence par ceci, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Voyez-vous, cet amour qu'on a vu tout à l'heure dans le verset 9, hein, s'exerce même en direction des ennemis les plus durs. On a entendu bien des histoires vraies, là. Je me souviens en particulier de l'histoire d'un geôlier, hein, dans les prisons allemandes, qui a fait souffrir des hommes extrêmement, et puis qui a rencontré, des années après s'être converti, une ou quelques personnes qu'il avait fait souffrir. Un homme changé véritablement, et comment changer ? Changer par le comportement de ces chrétiens qui priaient pour le geôlier qui les faisait souffrir en désirant que lui aussi connaisse le bonheur qui était leur. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup, on en a entendu parler il y a quelque temps à Bordeaux avec ce qui se passe dans les prisons russes. Hein, des gens qui ont été des meurtriers affirmés, avec un passé solide, qui avaient de l'autorité dans le milieu des meurtriers, et des gens qui assouvissent tout, pour lesquels la vie ne compte pas, pourvu qu'ils en tirent un bénéfice personnel. Et puis, quelqu'un qui avait été meurtrier lui-même leur a dit, mais ce bonheur que nous avons maintenant, vous n'en voulez pas? Qui en veut? Et dans la salle, il y a une personne, 2 personnes, 3 personnes qui se sont levées. L'atmosphère a changé. Ils ont pu visiter une autre prison ensuite qui n'était pas autorisée à visiter. Donc, vous voyez, ce passage-là a une grande importance dans notre témoignage. Ne pas penser aux ennemis comme des gens auxquels il faut faire face en se comportant de la même manière. On va le voir un peu plus loin, ne rendez pas mal pour mal, mais comme des gens qu'il faut gagner. Donc, nos souffrances avec le Seigneur, en présentant quelque chose qui est en quelque sorte le désir du bien, qui traduit que nous avons toutes les consolations, toute la richesse d'espérance, que la mort peut venir, mais elle va nous précipiter dans ce qui est un bonheur incomparable et dans une présence que nous désirons. Eh bien, c'est un témoignage puissant. Donc, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Un comportement chrétien dans une société devant la méchanceté, c'est le Seigneur, on l'a vu tout à l'heure dans la première épître de Pierre, je crois que c'est Jean-Louis qui l'a lu, hein, devant l'outrage, le Seigneur ne répond pas par l'outrage. Voilà, encore un exemple, et ça induit quelque chose dans la suite du paragraphe.
qu'il y a de sûr, il me semble, c'est dans les caractères moraux montrés dans ces du moins qui ces exhortations montrent certains caractères moraux, et ces caractères moraux nous parlent vraiment du Seigneur Jésus. Quand on lit aussi dans un peu plus loin, ne pensons pas aux choses élevées, mais vous associons aux humbles. Et quand on voit le chemin du Seigneur Jésus, qui est un chemin qui descend et qui descend vers nous, un chemin qui vient vers ceux qui sont petits, un chemin qui est un chemin dont la conséquence sera la bénédiction pour nous. Et dans un sens, il me semble que les caractères qui sont montrés là, les exhortations que nous avons là, c'est un peu comme pour nous dire ressembler au Seigneur Jésus. L'esprit du monde va nous entraîner à faire autre chose. On est content d'être l'ami de quelqu'un qui est influent, humainement parlant. Mais là, on est content d'être l'ami de quelqu'un qui est petit. Un peu comme le Seigneur Jésus est notre ami, celui qui est venu vers nous, celui qui est venu, celui qui s'est anéanti pour venir à notre rencontre.
Content d'être l'ami de quelqu'un d'influent. Je lis simplement dans le psaume 146. Ne vous confiez pas dans les principaux, dans un fils d'homme en qui il n'y a pas de salut. Son esprit sort, l'homme retourne dans le sol d'où il est tiré, en ce même jour ses desseins périssent. Bienheureux celui qui a le Dieu de Jacob pour son secours, qui s'attend à l'Éternel son Dieu, qui a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, qui garde la vérité à toujours, etc. Donc voilà, les hommes autour de nous, ils peuvent avoir une grande influence, mais ça n'a pas grande importance. Les choses sont dans la main de Dieu, et notre confiance est bien placée en Dieu, pas dans les principaux. Donc, on ne doit pas avoir ce souci de se faire des amis avec des gens qui ont du pouvoir. Ça peut arriver, mais ce qu'on attend, nous, c'est ce que Dieu fait et ce que Dieu opère. S'il plaît à Dieu d'utiliser quelqu'un d'influent, tant mieux, mais mon désir, à moi en tout cas, c'est pas que l'homme influent produise quelque chose sous certaines pressions ou pour me faire plaisir, comme les hommes font. Ce qui m'intéresse, c'est que je vois le chemin de Dieu dans ce qui est fait, alors j'accepte. Et le verset 18 nous dit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivant en paix avec tous les hommes, c'est pas toujours possible, mais notre souci doit être de vivre en paix avec tous les hommes. » Bon, ça veut dire qu'il faut endurer quelquefois des choses difficiles, subir un certain nombre de choses, mais comme on l'a vu avec le début du paragraphe, si vous vous comportez en chrétien, ça va changer la manière de voir des personnes. J'ai eu un jour un homme dans mon voisinage qui m'a fait toute une histoire parce que nous avions un mur qui était chez moi, mais sans le savoir que j'avais rendu mitoyen en faisant un petit dôme dessus, avec une goutte d'eau de son côté, pour que l'eau ne ruisselle pas sur son mur, et que son mur, qu'il avait peint soigneusement, reste propre. Alors, il m'a accusé de vouloir construire chez lui, et il a fallu que j'achète un papier timbré, en m'engageant à ne pas construire sur ce dépassement de quelques centimètres, qui faisait d'ailleurs 3 ou 4 centimètres de hauteur, comme si on pouvait construire là-dessus, et ça l'a apaisé. Un autre jour, il m'a coupé mes arbres parce que ça faisait trop d'ombre dans son jardin et il a tout jeté chez moi. Je suis arrivé, mon beau-père m'a dit « Mais tu vas faire quelque chose ?» Je lui ai dit « Écoute, il est naturel, pas lui reprocher d'être naturel. » Un voisin qui est maintenant d'une gentillesse exceptionnelle, qui prend un calendrier biblique, qui pose un certain nombre de questions, qui cherche à faire plaisir chaque fois qu'il en a l'occasion. Voilà. Comment on peut, en acceptant des choses difficiles, vivre en paix et même transformer les gens. Bon, ça c'est un tout petit exemple, hein, mais vous avez des exemples avec des affronts beaucoup plus grands. Ça c'est un plaisir pour un chrétien de vivre des choses comme ça. Ça se voit des années après, semer aujourd'hui, en savourant à l'avance, la récolte que Dieu manifestera quand il le jugera bon.
J'ai lu dans un commentaire à propos de cette fin de chapitre, un peu ceci, choisir entre le poing fermé ou la main tendue.
Il faut peut-être dire un petit mot des versets 19 et 20, en particulier de cette expression, « En agissant ainsi, tu entasseras des charbons de feu sur sa tête. » C'est peut-être lié à ce qu'on vient de dire, hein. Il y aura peut-être une autre explication, mais... Vous avez ce comportement dont on vient de parler, là, vivant en paix avec tous les autres. On laisse le Seigneur agir, c'est la fin du verset 19, hein, le début de la citation. Et puis si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, tu entasseras des charbons de feu sur sa tête. Hein. L'une des interprétations est celle-ci. Vous êtes agressé. Vous répondez dans l'amour et pour le bien. Mais ça devient insupportable. Et ça travaille tellement l'individu. Les charbons de feu, c'est sur la tête, c'est supportable? Certainement pas. Vous avez envie de vous en débarrasser. Bien, cet ennemi qui vous agresse, si vous répondez avec amour et douceur, ça devient insupportable. Il n'y a qu'une solution pour lui, c'est de s'arrêter.
Ce qu'il faut dire quand même, c'est que, puisque tous ces passages insistent beaucoup sur le fait de ne pas se venger, et c'est vrai que c'est l'enseignement, ça ne veut pas dire que quand on est agressé, ou en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est de voir que ça ne veut pas dire que dans notre vie, ça sera forcément toujours facile avec toutes les personnes que nous allons côtoyer, et je trouve très beau de voir que la parole est honnête, et parle de situations réelles et concrètes, même si on n'est pas en Colombie avec les FARC. Je crois que chacun dans notre vie, bon, on peut choisir ses amis, mais des fois on choisit pas son patron, on choisit pas ses voisins, et on choisit pas un certain nombre de personnes avec qui on est un peu obligé de vivre et qui sont des fois difficiles à vivre. Donc c'est déjà beau de voir que la parole nous parle aussi de ces situations qui sont tout à fait concrètes de tous les jours. Alors on est invité à pardonner effectivement parce que c'est à ne pas se venger parce que c'est vrai que c'est difficile. Mais ça ne veut pas dire de notre côté qu'on doit faire comme si de rien n'était, faire comme si tout le monde était gentil et ne jamais faire de reproches, ne jamais rien dire. Il me semble que l'attitude de l'amour, c'est aussi de dire les choses. Et quand on est quelqu'un nous fait du mal ou eh bien voilà, avoir la liberté de dire ce que tu fais, ce n'est pas bien, ou là je pense que tu as un comportement qui exagère, tu dépasses les prérogatives que tu as. Quand c'est un patron, c'est pas toujours facile, mais bon. Il me semble que l'amour, en tout cas, c'est aussi de dire les choses. Ce qu'on est amené à laisser à Dieu, c'est la vengeance. Alors, ça ne veut pas dire non plus que si on ne se venge pas, rien ne sera fait. Alors, ça passe dans l'oubli et puis voilà, il n'y aura rien. Non, la vengeance, c'est Dieu qui l'accorde. Et je crois qu'on c'est aussi quelque chose qui nous encourage, c'est de savoir que Dieu est parfaitement juste. Et Dieu pèse toutes choses, et s'il y a des choses, des injustices qui sont faites et qui nous sont faites, eh bien Dieu les pèse, et Dieu à sa manière, avec sa souveraineté, avec sa justice, eh bien rendra à chacun selon les actes de chacun.
Ça Je lis dans le psaume 57, David dans une expérience, hein, Dieu prend en main la cause des siens, et ici il a des ennemis, un environnement difficile à supporter. Je crierai au Dieu très haut, à Dieu qui mène tout à bonne fin pour moi, versets 2 et 3 du psaume 57. Il a envoyé des cieux et m'a sauvé. Il a couvert de honte celui qui veut m'engloutir. Dieu a envoyé sa bonté et sa vérité. Voilà. Ensuite, son âme est au milieu des lions, etc. Mais il est délivré. Voilà. Bon, nous sommes dans la main de Dieu qui mènera tout à bonne fin pour nous. Devant un ennemi, les affronts, des choses difficiles à supporter, Dieu prend en main la cause des siens. Prière, on lui en parle, à lui, on lui demande le comportement qui convient, Dieu va se charger des affaires, régler le problème des ennemis de la meilleure manière.
Quand le Seigneur Jésus a été devant Pilate, on a peut-être un peu le souvenir du passage d'Ésaïe 53, il a été comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Mais quand on lit les évangiles, je n'arrive pas à le retrouver là maintenant, à un moment donné, le Seigneur est frappé, et le Seigneur va dire, si j'ai mal parlé, si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Il n'a pas laissé faire. Il n'a pas agressé celui qui l'a frappé, mais il n'a pas laissé faire, il a relevé la chose. Et ça, c'est juste quand il y a un conflit, peut-être avec un voisin, avec quelqu'un près de nous, on peut relever les choses. Et le but, c'est pas de faire ressortir sa propre justice, c'est d'essayer, avec la grâce de Dieu, de toucher la conscience de celui qui agresse. Et le Seigneur a agi comme ça. De notre côté, il a été celui qui a été muet, la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il y a des moments où il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu à la provocation. Il n'a pas répondu quand il avait dit ce qu'il devait dire, il n'a plus répondu. Mais il n'a pas laissé faire entièrement, ce n'est pas vrai. Si j'ai mal parlé, pourquoi me frappes-tu? Et le but de cela, c'est pas d'insister sur sa justice, mais c'est de toucher la conscience de celui à qui il s'adresse.
C'est dans le chapitre 18 de l'Évangile selon Jean, hein, le récit.
Et on peut lire dans Proverbe 20, verset 22, « Ne dis point, je rendrai le mal, je vais me venger. Attends-toi à l'Éternel, et il te sauvera. » Laissez Dieu agir, mais ce n'est pas non plus de la passivité. Dans le passage que l'on a, il me semble qu'il y a d'un côté on se confie en Dieu pour qu'il agisse, et de notre côté au verset 25, ce qui est présenté, c'est ne sois pas surmonté par le mal, ne te laisse pas écraser par ce qui vient d'arriver, mais surmonte le mal par le bien. Ça veut dire que dans cette circonstance, ce qui va être le plus brillant, ce n'est pas le mal qui veut t'écraser, mais c'est le bien produit en Dieu, en toi, qui va être visible. Surmonte le mal par le bien.
À ce sujet, là, j'ai lu cette semaine l'histoire d'un Cambodgien qui avait été maltraité pendant les Khmers rouges. Et cet homme, il a vu toute sa famille se faire tuer sous ses yeux, lui-même était dans la fosse commune, sous les cadavres de ses frères et sœurs, et puis les Khmers rouges sont partis, il a réussi à se sortir de la fosse, et il n'avait pas recouvert de terre les cadavres, parce que il voulait ramener d'autres personnes à mettre dedans, dans la fosse, donc il s'en va. Et de toute sa vie, cet homme, il désirait se venger. Et il n'attendait qu'une chose, c'est de retrouver ses bourreaux. Puis, le Seigneur sait bien les choses aussi, il a trouvé cet homme, et il l'a transformé. Mais il avait quand même du mal à dire pardon, à pardonner à ses bourreaux. Mais quand même, il a fait la démarche d'aller vers eux. Il fallait du courage. Il a retrouvé ses bourreaux. Alors, dans le peuple cambodgien, il n'y a pas tellement de gens qui demandent pardon. Et il a trouvé trois de ses bourreaux. Il y en a deux qui ne lui ont pas demandé pardon. Et le troisième s'est confondu et lui a demandé pardon. Et ça l'a complètement libéré, cet homme, parce que il a lui-même pardonné. Et le poids qu'il avait sur le cœur, c'est dans la demande de pardon de son bourreau que lui-même a eu la capacité de pardonner. Et ça l'a libéré.